Alors, frères et sœurs, le texte aux Éphésiens que nous avons lu tantôt doit en avoir fait sursauter encore une fois plusieurs parmi vous, je crois, j'espère. Donc, vous, mesdames, je crois que dans toute la Bible, c'est le texte qui est le plus controversé, en particulier en ce 21e siècle. On comprend que la lutte des femmes pour obtenir le droit à l'égalité avec les hommes a été longue, cette lutte. Elle a été ardue et parfois décourageante. C'était impensable que les femmes au 19e siècle ne puissent pas voter, que seulement les hommes pouvaient voter. Voyons donc. C'était mal comprendre Dieu, c'était mal comprendre sa parole. Mais enfin, c'est fait maintenant. Et c'est pas question qu'on revienne en arrière. Saint Paul a écrit ce texte pour que vraiment les... Est-ce que c'est vraiment, vous croyez, pour que les femmes se soumettent à leur mari? Est-ce que vraiment, dans le mariage, le mari est la tête? Est-ce qu'il est vraiment question de domination sur la femme dans ce texte-là? Alors, regardons de plus près. Essayons de comprendre ce que saint Paul a voulu dire. Il a peut-être été gauche dans sa façon de le dire, mais voyons ce qu'il a voulu dire. Après avoir écrit ces affirmations que nous avons lues, ces affirmations qui nous heurtent, Paul explique ce qu'il veut enseigner. Il précise que dans le couple, le mari est la tête, comme le Christ est la tête de l'Église. Moi, ça n'ajoute pas grand-chose. On parle toujours de tête. Le but de Paul, ce n'est pas d'hiérarchiser le couple, surtout le couple homme-femme, mais de le comparer à Jésus et à l'Église. Et c'est ce que saint Paul a voulu faire. Comparer le couple à Jésus et à l'Église. D'ailleurs, dans la lecture, on parle de l'Église comme d'une épouse rayonnante, belle. Le Christ en est la tête de l'Église, c'est-à-dire qu'il conduit l'Église. Il l'amène vers son accomplissement, vers sa croissance, en fait, vers son bonheur. Voilà ce que c'est la tête. Vous savez, quand il y a une expédition qui s'en va au sommet d'une montagne, il y a le premier en avant, il est la tête, il mène les autres. Où il passe, tous les autres passent. Donc, il n'y a personne qui se sent diminué parce qu'il y en a un qui mène le chemin. Voyez? Et c'est ça la tête, donc. Qu'on arrive sain et sauf au but. Alors, Paul ajoute, vous les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle. Qu'est-ce que saint Paul nous dit? Il nous dit que le Christ a donné sa vie pour son épouse. Et il fallait qu'il l'aime, n'est-ce pas? Il a donné sa vie. Voilà jusqu'où il l'a aimé. Il a fait le don total de lui-même pour son épouse. Il n'y a pas de meilleure façon, en tout cas selon moi, d'aimer, d'être prêt à tout donner pour celle qu'on aime. Donc, ce que dit saint Paul, c'est de faire comme le Christ, c'est-à-dire, c'est de la même façon que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. C'est aimer sa femme comme lui-même. Ce qu'elle ne voudrait pas le mari qu'on lui fasse, il ne devrait pas le faire à sa femme, forcément. Donc, pour résumer, le mari, il est appelé à donner sa vie pour sa femme. Et il doit faire le don de sa vie, qui est le signe du don que le Christ fait à son Église, à son épouse. Et l'Église, faisait ça, c'est nous. On n'est pas tous des femmes dans l'Église, mais l'Église, c'est comme un personnage féminin. C'est symbolique, évidemment. Donc, Paul le compare à un couple, ce Christ et son Église. Et en retour, ben, l'Église se donne à son mari, se donne au Christ qui en est la tête, ce qui provoque un débordement d'action de grâce, ce qui devrait provoquer un débordement d'action de grâce. Donc, pour les femmes, vous, mes femmes, pas mes femmes à moi, mais vous, les femmes, il ne s'agit pas de dire que le mari serait le maître. Il ne s'agit pas d'être soumis à son mari sans poser de questions. C'est d'être reconnaissante envers son mari quand celui-ci est prêt à vous traiter comme lui-même voudrait être traité. Et s'il est prêt à donner sa vie pour vous, voilà ce que Paul a voulu dire. Voilà ce que c'est la tête. Être prêt à se donner corps et âme et vie pour celle qu'on aime. Donc, il y a des couples qui ont à leur compte plusieurs années de mariage. Vous savez, on célèbre des anniversaires de mariage, il y en a qui sont rendus à 50, puis parfois plus que ça encore, 60, et qui sont prêts à tout pour préserver l'attachement, la tendresse et le respect de l'un pour l'autre. Ils ont dépassé, frères et sœurs, l'attrait sexuel. Parce qu'au début, il y a beaucoup d'éros, hein, l'amour éros, dans la vie des couples. Et nous le savons, frères et sœurs, avec le temps, vous, mesdames, les rides apparaissent sur le visage. Et avec les années et les grossesses, elles ont pris et vous prenez, vous, madame, mesdames, vous prenez des rondeurs qui ne sont pas à la mode d'aujourd'hui. Et certains maris n'ont plus envie de se montrer avec elle à son bras. Les femmes ne sont pas des anges, ni les maris d'ailleurs. Il faut donc qu'en cours de route, l'amour devienne attachement à ce qu'il y a de plus précieux chez l'autre, à ce qui soit inconditionnel cet amour. Donc, l'amour éros doit se transformer en amour agapé, c'est-à-dire l'amour sans condition. T'as plus la parure que t'avais quand t'avais 20 ans, mais je vois la beauté de ton cœur, je vois la beauté de ton intérieur. C'est pourquoi il faut s'aimer comme le Christ a aimé l'Église. Donc, donner la vie pour l'autre, ça veut dire, quand ce n'est plus l'amour éros, mais agapé, ça veut dire la veiller quand il y a maladie. C'est de partager ensemble les prises de décision. Et c'est surtout, je dirais, en faisant en sorte que l'épouse et l'époux sachent qu'ils sont précieux l'un pour l'autre. Et ça, on le découvre en sachant que chaque être humain est sacré. Et où est qu'il ou qu'elle, elle est un mystère à apprivoiser. Chacun de nous est un mystère. Amen.